Ce jour dédié pour aller une fois chez moi à la guérison complète et rapide de Lydie Beb bah de Jenny Mandela. Ok, alors on va parler un peu d'actualité. C'est une histoire que je racontais très souvent, ça fait longtemps que je la raconte parce que c'est toujours incessamment sous peu. C'est écrit dans Daniel 2. Daniel, 12 chapitres, passionnant, ne pas lire la nuit, parce qu'on ne dort pas la nuit après, parce qu'on tourne les pages, on n'arrive pas à s'endormir. Chapitre 2, Daniel, c'était un des sages qui avait ici à Jérusalem, et il a été déporté par le grand empereur irakien de l'époque, Nabuchodonosor, celui qui a détruit le temple de Jérusalem. Le grand temple, le premier temple était beaucoup plus important que le deuxième, dans la mesure de la présence divine qui était là, c'est quelque chose qui n'était pas dans le deuxième, beaucoup moins. Donc c'est vraiment une très grande destruction faite par ce grand empereur qui était extrêmement cruel, un très très grand tyran. Et il avait à sa cour une centaine de devins, sages, magiciens, dont beaucoup qui étaient des états qu'il avait conquis. Donc il a amené aussi Daniel, qui est un grand sage, lui et ses trois amis, Michel, Hanania et Azaria, pour qu'ils soient parmi cette cour de devins et conseillers du roi. Et dans le chapitre 2 de Daniel, il a raconté qu'un beau jour, il se lève le matin. Il convie rapidement tous ses devins. « Écoutez, j'ai fait un rêve ce matin. Ce rêve m'a l'air extrêmement important. Donc je voudrais connaître le sens de ce rêve, comment interpréter ce rêve. » Les devins disent « Pas de problème, Sa Majesté. Racontez-nous le rêve et on va vous l'interpréter. » En parenthèse, les quatre juifs n'étaient pas là. Je pense qu'ils sont allés faire charrette à ce moment-là. Donc ils n'étaient pas présents. Et nous connaissons dit « Non, trop simple. » Je raconte le rêve, vous me raconterez, vous interpréter, mais comment je saurais que l'interprétation est une vraie interprétation? On peut toujours un peu interpréter un peu comme on veut. Moi, je suis certain que vous êtes vraiment des vrais devins, que vous pouvez vraiment deviner. Alors, je vous écoute, messieurs. Si vous êtes vraiment des vrais devins, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Et quand je verrai que vous avez vraiment deviné, je vous croirai pour l'interprétation. Les devins disent, mais Sa Majesté, ça ne va pas. Aucun roi n'a joué une chose pareille à ses devins. Écoutez, on a tous essayé un bac plus 7 en interprétation des rêves pour être certain qu'on a vraiment des grandes études là-dessus. Soyez certains, vous aurez la vraie interprétation. Et écoutez, monsieur, vous êtes une centaine de devins, ici à la cour, à mes frais, beaucoup d'argent, hein, un petit déjeuner continental, 10 heures, déjeuner, goûter, dîner, petit encas à minuit, etc., un petit creux par-ci, par-là, puis on fait la fête de temps en temps, beaucoup d'argent. Donc si vous, je vois que vous n'êtes même pas capable de deviner ce que j'ai rêvé, ben, j'arrive à votre compte. Alors faites vite, j'ai encore une minute. Les devins rentrent en panique. La minute passe et rien ne se passe. Le roi Nabuchodonosor rentre dans une colère terrible et édite un décret que tous les sages de Babylone doivent être envoyés à la fournaise. Arioch, c'était le bourreau, va voir les quatre amis juifs, Daniel, Hanania, Michel et Azaria. Il leur dit, désolé messieurs, quoi? La fournaise. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Il leur raconte l'histoire. Daniel dit à Arioch, va voir le roi, demande-lui une audience d'urgence. Le roi accepte. Daniel vient, il lui dit, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, je vous donne le rêve et son interprétation. Le roi réfléchit un peu et dit, ok, Daniel, j'accepte. Mais si dans 24 heures, tu ne me donnes pas le rêve avec l'interprétation, je fais une mort spéciale comme ça, comme il y a dans mes prisons, là, dans les caves irakiennes de Bagdad. Daniel répond, glups. Bon, ça c'est moi qui rajoute parce que c'est pas écrit dans le texte, d'accord. Il va voir ses trois amis, Mishael, Hanania et Azaria, il se met à prier et Daniel s'endort. Et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabucodonosor et de l'interprétation. Avant le lendemain matin, il dit, Sa Majesté, c'est impressionnant, hein. C'est très passionnant. Vous voulez que j'arrête? On ne peut pas arrêter au milieu de l'histoire, hein, c'est trop beau. Alors, je dis, Sa Majesté, tu étais sur ton lit, tout à coup tu as vu devant toi une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer, le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Et les petites pierres, venues sans l'intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, et toute la grande statue s'est écroulée. C'est écrit dans le verset, le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or ont été détruits. La petite pierre a commencé à grandir, 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 est devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Donc il nous a dit, Daniel, banco, c'est exactement ça. Pour l'interprétation. Il dit Sa Majesté. Dieu régnait depuis son temple à Jérusalem. Tu as détruit ce temple, c'est toi qui as hérité la royauté du monde. De là-bas, Dieu régnait, c'était sa royauté. La Shrina, la présence divine, est partie en exil. C'est toi maintenant qui es le roi du monde. Tu as le plus grand empire. Il n'y a jamais eu d'empire aussi grand que celui de Nabucodonosor avant Nabucodonosor. En tout cas, dans la région ici, peut-être en Mongolie, Gangikan, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, oui. Et peut-être dans toute l'histoire. Toi, tu représentes la tête d'or. Cette grande statue, en fait, elle raconte l'histoire de cette royauté. Qui vont être les rois du monde? Quel empire vont être les rois du monde? Alors toi, tu es le premier, ce sera l'empire babylonien, irakien. Mais un jour, tu vas être renversé, son petit-fils, Nabucodonosor, va être tué, et conquis par les Perses. Eux sont comparés à la poitrine d'argent. Les Perses aussi, un beau jour, vont être conquis par les Grecs, très bien, Alexandre le Grand, qui va depuis la Grèce jusqu'en Inde, et va conquérir toute la région ici, un empire énorme, comparé au ventre de cuivre. Puis les Grecs vont être renversés par les Romains, comparés au fer, et Daniel dit, parce que le fer, c'est de choix le matériau de guerre, des armes, d'accord ? L'Occident, c'est une puissance guerrière. Tous les empires coloniaux que sont faits, tous les pays, à part les Suisses qui sont des nuls, tous les pays d'Europe, d'Occident, ont eu des empires énormes. D'accord, l'empire Hollande, petit pays, la Hollande, puis ils ne sont arrivés pas en Nouvelle-Zélande, etc. D'accord, l'Espagne, Portugal, Italie, France, Russie, Angleterre, chacun. Puis à la fin, il n'y aura pas qu'un seul empire, il y aura d'un côté le fer, l'autre côté l'argile. L'argile, disent les commentateurs, ça sera le monde oriental, Ismaël, le monde arabe. arabe Ismaël, parce qu'on a eu très longtemps, on a eu l'empire turc, d'accord, face à l'empire occidental. Puis aujourd'hui, c'est tout l'empire, enfin toute la puissance d'Ismaël. À la fin, viendra une petite pierre sans intervention d'une main humaine, ce ne sera pas la force humaine, ça sera par la force de Dieu. La petite pierre représente le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que la pierre, c'est l'emblème de l'éternité. C'est ce qui, le monde minéral ne bouge pas, ne change pas. On est le même peuple depuis 3-4 000 ans. Alors, je vais expliquer un jour pourquoi la pierre, parce que d'abord, c'est écrit clairement, il y a un verset à la fin de la Torah, où Misham Roé, Evan Israël, que le peuple d'Israël est appelé une pierre. Evan Israël, la pierre d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi Evan ? Première explication, comme je l'ai dit, parce que c'est un emblème d'éternité. Deuxième, le mot Even en hébreu, c'est une contraction de deux mots, Av, Ben. Comment cette petite pierre a réussi à traverser toute l'histoire, à résister aux plus grands empires qui voulaient sa fin ? L'empire babylonien, tous ont voulu notre fin. Les Perses, c'était l'histoire de Mordechai et Esther, ont voulu notre fin, d'accord. Les Grecs, on n'en parle pas, Hanouka, les Romains, on n'en parle pas, Ishmael, on n'en parle pas, tous ont voulu notre fin. Et à la fin, tous disparaissent, la petite pierre reste. Grâce à quoi ? Un secret qui est très, très important. C'est une parenthèse dans le sujet, parce que j'aurais pu arriver à l'actualité, mais en fait, ça nous concerne aussi, nous aussi encore aujourd'hui. Rashi, sur le verset où Misham Roé ben Even Israël, dit c'est quoi Even Israël, le père d'Israël, dit le mot Even, c'est une contraction de deux mots. Av, c'est quoi Av en hébreu, le père. Ben. Ben, c'est quoi le fils. Père, fils. La Gemara dit dans Brachot, lorsque le petit enfant se met à parler, il faut lui enseigner Shema Israël. L'enseigner le verset Torah, Tziva, Lano, Moshe, Morasha, Kilat, Yaakov. Dieu nous a ordonné, Moshe nous a ordonné, en tant qu'héritage à Israël, la Torah. Tu enseignes la Torah. Et lui, un beau jour, deviendra papa, qui enseigne la Torah à son fils. Qui deviendra papa, qui enseigne à son fils, etc. La transmission de la Torah, elle a fait que ce peuple reste un peuple éternel. Malgré tous les ennemis que ce peuple auquel ce peuple a été confronté, on avait une arme super plus grande. C'est ça le grand signe d'Israël par rapport au peuple de la terre. Vous avez une force qui est physique, Goliath. David vient contre Goliath, lui dit, toi tu viens avec l'arme physique, moi je viens avec le nom de Dieu. La Torah, il a pris cinq pierres, j'ai une cinq par rapport aux cinq livres de la Torah, il lance une pierre et il gagne. Et il gagne. Pourquoi tu es à cause des Tunisiens ? Quand on a dit qu'il était Tunisien, non, c'est pas à la base des Tunisiens. La vraie raison qui est écrite dans Chazal, c'est les cinq livres de la Torah. La force spirituelle est plus forte que la force physique. Ça, c'est Am Israël. Et vous êtes bientôt des papas, Berat Hashem, vous devez maintenant vous remplir de Torah pour être des bons papas. Dans les Midot, dans la connaissance de Torah, dans la prière, des exemples. Ça, c'est plus fort que toutes les armes. Je ferme la parenthèse. Donc, nous avons dit, génial, Daniel, t'es pas un homme, t'es un dieu, amenez-lui le sacrifice. Non, ça va, je suis un homme, c'est Dieu qui m'a envoyé pour que tu connaisses ce message-là, que tu comprennes le sens de ce message. Donc en fait, toute l'histoire est écrite ici en très résumé. Le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, vivait il y a 150 ans environ, pose une question. Dans le verset 45 de ce chapitre 2, c'est écrit, je l'ai cité maintenant rapidement, on n'a pas remarqué un peu la petite nuance là, j'ai dit que quand c'est marqué la pierre a touché le bout des pieds, ils ont été détruits, le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Qu'est-ce qui cloche dans ce verset ? C'est pas dans l'ordre chronologique. Ou tu commences de haut en bas, tu fais or, argent, cuivre, fer, argile, ou de bas en haut, argile, fer, cuivre, argent, or. Il commence par le fer, le cuivre. Le cuivre, c'est le ventre. Après, descend le fer, descend encore l'argile. Après, il remonte poitrine et tête, argile, argent et or. Ou tu as bu un petit coup, ou il y a quelque chose, il y a un secret là-dedans. Évidemment, il y a un secret. Le Malbim, il dit, c'est pour nous dire comment ça aura lieu. Et ça, messieurs, c'est l'actualité. J'ai amené un petit papier pour vous lire, extraordinaire. Comment ça sera ? Il dit, il y aura la guerre en deux blocs. Le premier bloc sera fait des deux premiers. Cuivre, fer. Cuivre, c'est quoi ? La Grèce. Fer, c'est quoi ? Rome. C'est la culture gréco-latine. C'est quoi la culture gréco-latine ? L'Occident. Nous tous, nous parlons en gréco-latin, d'accord ? Le français, c'est une langue gréco-latine. L'anglais aussi, l'allemand aussi, l'italien aussi, l'espagnol aussi. L'Occident. Qui vont se mettre en guerre contre l'argile. Le monde d'Ismaël, le monde arabe. Le monde arabe, c'est très grand. Ça va depuis le Maroc jusqu'au Pakistan. Contre tous ? Non, il dit deux. L'argent et l'or. L'or, c'est quoi? L'Irak, Babylonie. L'Occident va s'unir pour aller en guerre contre l'or, contre la Babylonie, contre l'Irak. Deux guerres du Golfe. Forces alliées. Bush a réussi à réunir 21 forces alliées occidentales pour attaquer Saddam Hussein. Après, le fils vient liquider. Le fils Bush, plus Saddam Hussein, plus l'Irak. Ça, c'est qu'on a liquidé maintenant la tête. Reste la poitrine. La poitrine, c'est l'argent. C'est quoi? La Perse. C'est quoi la Perse aujourd'hui? L'Iran. Les forces alliées occidentales, les forces, l'Occident doit s'allier pour aller attaquer l'Iran. Ça sent très fort. Trump a dit qu'il n'allait pas reconduire, ou si oui, en tout cas, avec beaucoup de nuances, l'accord, le plus mauvais accord jamais signé dans l'histoire par Obama sur le nucléaire iranien. Il a dit qu'il allait dire que les gardes de la révolution en Iran, c'est une organisation terroriste. L'Iran a répondu que s'ils disaient une chose pareille, ils allaient bombarder les bases américaines au Moyen-Orient. Ça chauffe. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Armée de l'air, début de l'exercice Blue Flag. L'exercice d'envergure Blue Flag, drapeau bleu. Début dimanche depuis la base aérienne d'Ovdat dans le sud du pays, on part en Israël. Se déroulera sur 2 semaines. Il s'agit du plus grand exercice aérien jamais réalisé dans les cieux d'Israël. À part les appareils de Tsahal, y participeront des avions des armées de l'air américaines, françaises, polonaises, grecques, italiennes, indiennes, allemandes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Les exercices simuleront divers scénarios liés aux défis stratégiques régionaux actuels. Peut-être contre, je ne sais pas, on va aller au Soudan. Enfin, contre qui ça peut être? Et mettront en action plus de 1000 équipes opérationnelles, techniques et logistiques. Blue Flag est l'exercice de prestige de l'armée de l'air israélienne depuis 2013, etc., etc., etc. Le porte-parole de Tsahal a tenu à insister sur le fait que cet exercice a été planifié il y a un an déjà, dans le cadre des manœuvres ordinaires et qui n'est pas lié au contexte régional actuel. Comme on dit, mon œil, d'accord ? Ce n'est pas lié au contexte régional actuel. Tu parles. Donc, nous voyons ici une union militaire. C'est clair, c'est contre l'Iran. Quand ça va péter, je ne suis pas prophète, il se prophète, mais les choses avancent. Je parlais beaucoup avant, Rosh Hashana, Kippour et Sukkot, la tension avec la Corée. Les gens ont dit que ça s'est calmé, ce n'est pas calmé du tout. On m'a encore dit aujourd'hui qu'il y a un spécialiste qui était dans les relations Corée-Sud-Corée Nord. Il a été interviewé, il a dit « J'ai connu le père de Kim Jong, je connais Kim Jong. » C'est un type, tout ce qu'il dit, il le fait. Ce n'est pas un bluffeur. Il ne bluffe pas. Quand il dit qu'il va être au point une bombe nucléaire et il veut faire sauter l'Amérique, il ne bluffe pas. Actuellement, Trump est parti pour le plus grand voyage en Asie qui fait un président américain depuis les 25 dernières années. Il est au Japon actuellement. Et il a dit d'ailleurs aux Chinois, attention, Le Japon est une nation guerrière. Venez avec nous contre la Corée, si vous aurez des problèmes bientôt avec le Japon. Enfin, en deux mots, il y a ici, c'est clair que les choses avancent. Ah, il a dit, je l'ai noté ici, le temps de la patience stratégique est révolu. Alors, quand ça sera, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais idiot, naïf, aveugle, crétin et stam, dommage, d'accord ? Celui qui ne comprend pas qu'on est au bord d'événements grandioses. Ça va être normalement et avec l'Iran, parce que Trump comprend que c'est les deux ennemis. Il dit, ils ont dit eux-mêmes, regardez, 25 ans qu'on s'est tué avec la Corée, qu'est-ce que ça a donné ? C'est ce qui va se passer avec l'Iran aussi. C'est exactement le même scénario. C'est que l'Iran a 10 ans de retard sur la Corée du Nord. Mais c'est exactement le même topo. Donc, Grat Hachem, on espère que tout se passera pour le mieux. Ça dépend de nous. Plus étudier la Torah. Faire attention, comme on dit les brachot. Prier avec intention. Pas parler à la Shonara. Manger le plus kasher possible. Faire un Shabbat parfait. Parfait. Le Shabbat, c'est marqué que si quelqu'un, il a fait la Avodah Zara, de l'idolâtrie, comme Enoch, c'était la pire génération où ils ont commencé à faire de l'idolâtrie, il fait le Shabbat comme il faut, on lui pardonne tout. C'est fantastique et c'est un grand cadeau. Pas parler de choses de Chol pendant Shabbat, c'est Chilul Shabbat. Les gens, Shabbat, des fois, bon, Shabbat, je ne touche pas à l'argent, je ne vais pas allumer la lumière, mais on parle affaires, on parle, tu fais quoi demain, je prends la voiture, c'est interdit. On n'a pas le droit, Shabbat, de dire ce qu'on va faire dans le futur quand c'est une chose qui est interdite de faire. Pendant Shabbat. Et même si dans le passé, on parle du passé, mais ça a une incidence sur le futur. Quelqu'un, tu dis, j'aimerais bien construire une villa comme la tienne, combien ça t'a coûté ? 3 millions d'euros. Interdit. Il peut raconter l'histoire, combien ça l'a coûté ? S'il n'y a aucune incidence. Mais si le type dit, j'aimerais savoir pour pouvoir moi aussi faire comme ça, c'est interdit. Donc les gens ne font pas attention, c'est un cri de Shabbat. Le pire, c'est les femmes qui se rencontrent Shabbat. On a invité maintenant le couple Intel. Ah, c'est très bon ça, comment vous faites ? Ah, vous prenez le poisson, vous le faites revenir, vous mettez un peu de truc, vous trouvez un petit morceau. Tout ça, c'est interdit. Revenir, un petit morceau, c'est tochen, c'est bichoul, tout ça, c'est interdit. Faire attention. Les femmes, surtout, il faut leur dire attention de ne pas faire des échanges de recettes pendant le Shabbat. Ben Chavero, ne pas voler, pas parler à Shonara, ne pas haïr, ne pas être jaloux, faire la paix avec les gens. Il y a un programme énorme. Alors, vous dire, on ne peut pas tout faire d'un coup, c'est vrai. Mais commencez à faire un peu plus. C'est bientôt la fin. Je sais que ça fait 30 ans que je dis ça, mais ça fait 30 ans qu'on se rapproche. Chaque jour, on est plus proche. Et je répète, aveugle, celui qui ne voit pas que ça nous pend au nez. Quelqu'un nous dit, vous dites que des signes, on aimerait un signe clair de la fin. Je dis, le prochain signe, ce n'est pas un signe de la fin, c'est la fin. D'accord ? Le jour où Kim Jong envoie son missile, c'est terminé, c'est plus un signe. C'est, on y est, c'est terminé. On ne saura pas une seconde avant que ça aura lieu. Mais, ah oui, j'ai encore lu avant-hier, les services d'enseignement coréens, sud-coréens, disent qu'ils voient des préparatifs d'envoi de missiles en Corée du Nord. C'est proche. Attends, quand ça sera, personne ne sait. Peut-être Hanouka, peut-être Purim, peut-être certainement Pessah. C'est certain que chacun, ça va être une étape supplémentaire. Grâce à Shema, on va tous se renforcer. Tu vois Shema, Ursa Mashiach, dans le bonheur et la pureté. Amen.